Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Eric Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE. On va parler catch et on a du pain sur la planche puisqu'on doit parler des deux dernières émissions diffusées par la WWE, c'est-à-dire le Monday Nitro du 5 décembre et le SmackDown du 9 décembre. C'est un super catch-up, c'est la fête, et pour m'accompagner dans cette analyse de grand talent, j'ai avec moi l'inusable Papy. Comment ça va, Papy?
Bonjour, petit enfant, bonjour, Inside. Mais oui, super catch-up, ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps. En plus, c'est pour couvrir deux émissions historiques de la WWE.
Ah oui.
On a mis les petits plats dans les grands pour ces deux émissions qui vont faire date. Puisque dans le premier show, on va déterminer les deux nouvelles challengeuses les deux nouvelles qui vont s'affronter pour devenir la challengeuse numéro 1 au titre suprême de la WWE du côté de Raw.
Il y a un match pour le titre tag team aussi de mémoire.
Et il y a aussi une défense du titre tag team par les Usos contre Riddle et Elias. On a envie de voir ce match, le suspense. Est-ce que, ça y est, le règne des Usos va être brisé par cette tag team fraîchement construite, là, fraîchement soudée entre Riddle et Elias? Et puis à SmackDown, il se passera d'autres trucs. On vous en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais en attendant, c'est bien la Bloodline qui ouvre le show. On nous met un petit montage vidéo qui nous rappelle qui nous montre ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. La Bloodline qui arrive à l'arena, on va dire. Ils sont interviewés par Byron Saxton, qui s'occupe des interviews maintenant, tous les jours, dans les coulisses. Mais ils sont interrompus par Matt Riddle qui passe avec sa petite trottinette à toute allure, comme ça. Fiouch! Donc la Bloodline est perturbée, ça gueule un peu, l'interview ne se passe pas comme il se faudrait. Et là-dessus, il y a Elias qui débarque et puis qui prend la Bloodline à partie. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il n'est pas très malin parce qu'ils sont quatre quand même, la Bloodline. Donc il se fait direct attaquer sur le parking par Solo Sikoa, qu'il le défonce bien comme il faut. Même à un point où Elias va être blessé.
Ah bravo!
Alors ça fait rire Sami Zayn. On se retrouve du coup dans le ring là où on avait laissé nos pères Russo qui sont arrivés pour ouvrir le show. On rigole. Ils disent que le match est annulé. La défense de titre n'aura pas lieu puisque Elias ne peut pas participer au match. Il n'est pas cleared médicalement. Il n'est pas autorisé à catcher. Mais ils sont interrompus par Riddle qui dit que c'était pas très youssi ce qu'ils ont fait d'attaquer comme ça Elias avant le match. Sami Zayn fait opposition à tout ça. Il dit c'est moi le spécialiste dans tout ce qui est youssi. Il est youssiologiste, nous apprend-il. Il dit que Solo Sikoa et les Usos sont très youssi ce soir. Ce qui met un petit peu la foule en feu parce que dès qu'on parle de youssi. Ça fonctionne. Zayn propose à Riddle de rentrer à la maison. Mais Riddle annonce qu'il s'est trouvé un nouveau partenaire pour ce soir. Donc, il y aura bien un match. Il y aura bien un match pour le titre. Et qui est le partenaire de Riddle? Ce sera Kevin Owens. Et oui, je vous le donne en mille.
Surprise.
Surprise. Pas d'Elias. Kevin Owens à la place. Aux côtés de Matt Riddle, et c'est parti pour le match contre l'Undisputed Tag Team Champions, les Usos. Un match de 14 minutes 06, où évidemment ça part dans tous les sens, puisqu'il n'y a que du gros talent dans le ring. Mais au final, c'est les Usos qui vont remporter le match. Puisque il y a un Wendy qui est placé sur Riddle qui a été distrait par Sami Zayn, évidemment. Donc Wendy, victoire des Usos. Pendant le match, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'à un moment donné, Solo Sikoa qui a voulu protéger un des Usos des attaques de Kevin Owens à l'extérieur du ring. Et Riddle s'est jeté sur Solo Sikoa pour le mettre hors service. Et ça, Solo Sikoa, il a pas trop aimé. Et donc, à la fin du match, hein, une fois que le match est gagné par les Usos, il va monter sur le ring et il va se faire attaquer. Donc, voilà, Sikoa va détruire Riddle en faisant d'ailleurs un hommage à Umaga avec le Samoan Spike, hein, le gros coup de pouce comme ça dans la gorge. Il va le défoncer avec ses prises habituelles. Il va lui placer une chaise autour de la nuque et il va lui faire son gros écrasement dans le coin du ring. On apprendra que Riddle est hors course pour 6 semaines, alors que Solo Sikoa, lui, va rentrer tranquillement en vestiaire, sa capuche sur la tête. Voilà, on va vous demander où est passé Kevin Owens. Hein. Il a pourchassé les Usos et Sami Zayn à l'extérieur du ring, jusque sous le titan tronc avec une chaise. Donc, voilà, un gros bordel pour commencer le show. Elias qui se retrouve à l'hôpital, Riddle aussi, les Usos triomphants. Est-ce que c'est une belle manière de débarrer le show, mon papy ?
Un sacré bordel. Ouais, ça donnait du dynamisme au show. Alors, quelque part, on l'évoquait. L'affiche Riddle et Elias, c'était pas super intéressante. Bon, du coup, ouais. En virant Elias en mettant Kevin Owens, c'est quand même plus sympa.
Ouais, et puis ça donne un super match.
Ça donne un super match. En plus, il y a quand même plus d'histoire avec tous ces gars-là. Mmh. Ça se finit. Alors, t'as double histoire au final, parce que sur le saut de Riddle qui shoot. Solo Sikoa, t'as à la fois le fait que Solo Sikoa du coup se venge derrière et qui est pour le coup très en forme vu que c'est déjà lui qui vire Elias avant le début du show, donc c'est il est en mode destruction là massive de Sikoa et en même temps t'as Zayn qui sauve Jay en le tirant en fait pour les faire éviter le saut, ce qui fait que bah c'est ce qui enclenche la séquence finale en fait grâce à l'esquive de Jay tiré par Sami. Donc, il y a les deux trucs en parallèle. Tu as à la fois le Sami qui est utile pour sauver les Usos et puis le Solo Sikoa qui est en train de partir en vrille complet ultra violent. Donc, encore une fois, on construit bien les membres de la Bloodline. Et pour en face, et ben voilà, Riddle est parti en vacances jusqu'au Rumble. Kevin Owens, c'est toujours en rivalité, mais bon, pour l'instant, il court beaucoup après, il n'attrape pas grand chose. Et voilà, c'était un bon démarrage de show quand même. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces gars-là, même si du coup, on aura un peu le même coup avec SmackDown, c'est que ça démarre très fort, et puis du coup, après, hop, ils s'en vont, puis c'est terminé, quoi.
Ouais, c'est difficile de suivre derrière, effectivement, surtout que ça se termine sur Riddle qui est emmené sur un brancard, hein, hors de l'aréna. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment le public était énervé de voir ça, ou est-ce qu'ils ont rajouté des tonnes de huées trafiquées au niveau du son?
Sur SmackDown, il y aura moins de doutes, hein, parce que franchement, ouais. Ils sont pas fait chier avec le son. Hein.
Ouais, on sent que c'est revenu à la mode, hein, le fait de trafiquer un petit peu les sons, les pop du public. Bon, ça c'est toujours fait, mais c'est plus ou moins visible dans certains shows. On nous rappelle aussi que McIntyre est blessé. Il y a beaucoup de blessés hein, en ce moment. Il sera remplacé par Butch à SmackDown aux côtés de Sheamus pour affronter encore une fois les Usos hein, qui travaillent tous les jours.
Ouais. Et donc, du coup, Sheamus et McIntyre, tu pouvais aller 1% de chance de gagner. Autant ouais. Butch et Sheamus, là tu te dis, ok.
Ouais, ok, ce sera encore un match de plus pour les Usos. On nous rappelle qu'il y aura deux triple threats ce soir. Pour désigner les deux qui vont s'affronter la semaine prochaine pour devenir les next challengers au titre suprême.
Et à noter que, enfin, on reviendra quand on fera les matchs, mais c'est des jolis triple threat parce que c'est que des anciennes championnes qui sont là.
Ouais, on a la crème de la crème du catch féminin. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure, sachant qu'il y a une des participantes qui va s'exprimer tout de suite. Au micro, Seréa Ripley, qui nous fait une petite promo où elle nous dit qu'elle va gagner le match, qu'elle va battre Bianca Belair, parce qu'on vous rappelle que c'est Bianca Belair, hein, la championne, pour ceux qui auraient oublié. Et qu'une fois qu'elle aura gagné, tout le locker room l'appellera Mamie. On a un poker aussi, parce que ça avait bien marché la semaine dernière. Le poker de JBL. Tout ce que le roster a de low card est présent, hein. Baron Corbin, Chad Gable, Otis, Dominic Mysterio, Mia Yim, Shelton Benjamin, Akira Tozawa, Dana Brooke, Tamina, Luke Gallows, Karl Anderson et AJ Styles.
Qui s'est perdu au milieu de la low-card.
Voilà, malheureusement. Hein. Bah oui, il a fait venir ses potes, maintenant il doit payer le prix. Il y a Dexter Lumis et Johnny Gargano qui débarquent aussi. Lumis avec son sac de fric là, qu'il a extorqué au Miz. Voilà, JBL n'avait pas l'air de comprendre qu'il y avait de l'argent dans le sac pendant un bon moment. Il explique que Lumis et Gargano ne sont pas invités, mais Lumis lui explique quand même qu'il y a du fric dans le sac. À partir de là, JBL l'invite hein, cordialement. Alors, il y a plein de choses qui vont découler de ce poker. Il y aura notamment un affrontement entre la Alpha Academy accompagné de Baron Corbin et contre, ils affronteront les aussi, donc Gallows, Anderson et AJ Styles, parce que y a eu un petit peu tricherie de Baron Corbin, donc
si peu.
Voilà, hein, il avait mis des as dans sa manche, hein, une douzaine d'as dans sa manche. Ça s'est vu, donc du coup ça règle ses comptes dans le ring. On aura un match de 14 minutes 30 qui sera gagné par les aussi, hein, AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows. Un match assez rigolo. C'est le Magic Killer hein, qui permet aux gentils de gagner.
Ça doit être la première fois qu'ils leur passent depuis qu'ils sont rentrés, non les deux vieux chauves là.
Ça ressemble... Peut-être qu'ils l'ont placé la première fois qu'ils ont fait un match, et puis sinon à chaque fois ça a été coupé dans leur élan. Mais cette fois-ci ils ont réussi à le placer. Il y a JBL qui était au commentaire, hein, et puis qui a pas vu le tag final hein, et qui a crié à la tricherie. On a eu aussi un match entre Tozawa et Dominic Mysterio. Puisque Tozawa a gagné, voilà, Tozawa a gagné une main et Dominic Mysterio était pas content. Il a essayé de piquer des jetons quand Tozawa a récupéré son fric. Le match évidemment est gagné par Dominic Mysterio hein, qui a réussi à esquiver une grosse descente là de la troisième corde de Tozawa, une descente acrobatique. Hein, il a esquivé hein, Dominic. Donc Tozawa s'écrase au sol. Et Dominic a fait un frog splash pour le tomber.
Fin du push de Tozawa, hein, ça a duré longtemps.
Voilà, fin du push de Tozawa. Bon, voilà ce qui tournait autour du poker. Hein. Je ne sais plus s'il y avait d'autres trucs. Il y a un machin pas, avec Miss aussi.
Il ne s'est pas passé un truc à la fin de Dominic Tozawa ? Non, je ne sais plus. Ils n'ont pas attaqué Tozawa ou autre comme ça. Ou peut-être que je confonds.
Voyons voir.
Il me semblait qu'il y a eu une intervention à la fin du match, mais peut-être que je confonds. Il y a eu trop de matchs de low-card, là, ça m'a brouillé l'esprit. Bon, on va dire qu'il n'y a rien.
Ah oui, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, mais il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le juge Bandé est arrivé pour attaquer Tozawa après le match.
Voilà, il me semblait bien.
Mais il y a les Street Profits qui ont débarqué.
Et puis, il s'est rien passé.
Et puis, c'est rien passé, c'était la coupure publicitaire.
Ah bah voilà, c'est me semblait que j'ai vu, cru voir quelque chose, mais non.
Et j'avoue que je me suis posé des questions quand même quand j'ai regardé, parce que je me disais, mais il n'y a pas les Street Profits qui sont arrivés à un moment donné ? Comment ça se fait qu'on ne les voit pas en action ? j'ai dû louper un bout, mais non, il ne s'est rien passé. Voilà, bon bah on reste dans l'univers de JBL un peu, qui prend un peu de place dans l'émission et qui incorpore tous les catcheurs qui d'habitude couraient à après le 24-7.
C'est ça, ça remplace clairement le 24-7. T'as raison, il y avait le Miz aussi qui a tenté de rentrer un soir, mais qui s'est fait refouler parce qu'il n'y a plus d'argent.
Voilà, c'est ça.
Il y a une fausse montre.
Oui, ça c'était drôle quand il propose de mettre en gage sa Rolex. Et JBL lui dit que tu étais au courant qu'elle est fausse quand même. Et là, il est un peu triste. Donc on garde aussi l'histoire de Miz et de Lumis et compagnie. Hein. Lumis et compagnie et Gargano, c'est moins drôle. Hein. On les retrouve aussi après dans une interview de Candice LeRae, là, qui dit qu'elle est toujours à la WWE, qu'elle a des raisons de se battre parce qu'elle a une enfant, etc. etc.
Et on s'en fout.
Voilà, c'est pas très intéressant, mais il débarque parce que c'est Lumis qui gagne le poker. Hein, il a plein de pognon. Et il monte le pognon à Candice LeRae, hein, qui est, je vous rappelle, mariée avec Gargano. Ils ont un enfant ensemble et tout ça. Et voilà, elle trouve ça super d'avoir du pognon, ils sont très contents.
Et ils se barrent. S'ils pouvaient se barrer et jamais revenir.
Voilà, c'est ça. Hein. Si, écoutez, si vous avez de l'argent de côté, prenez une pause de 6 semaines. Mais je crois qu'on les aura encore la semaine prochaine, hein, les Gargano et compagnie.
Ouais, après Gargano, Loomis, ça a l'air d'être parti en tag team, cette affaire. Enfin,
c'est
pas plus mal, hein, comme ça, ça permet d'avoir les deux d'un coup.
Ouais, voilà. De toute façon, visiblement, Gargano, ça accroche pas plus que ça auprès du public. Loomis, ils le font catcher une fois tous les 6 mois. Candice LeRae, honnêtement, je sais pas. Si quelqu'un a quelque chose à faire de Candice LeRae, mais la concurrence est rude à Raw, donc il vaudrait mieux l'envoyer à SmackDown, hein, s'ils veulent en faire quelque chose. Je pense pas qu'elle arrivera à s'imposer d'une manière ou d'une autre, à moins qu'elle prenne vraiment le public en pitié, les mères de famille et tout ça. Mais sinon, malgré tout son talent, hein, je dis pas, mais le level il est élevé à Raw, hein, au niveau des filles. Donc, voilà, mais bon, c'était tout à fait regardable, hein, toute cette locarde là.
Oui, enfin, voilà, c'est regardable. C'est vrai que, à la limite, le fait que ça provoque deux matchs différents, je me suis dit quand même, ils font chier à nous booker ça un peu à l'arrache. Là, disant, oh, tiens, allez hop, d'abord les aussi contre. Les autres contre Gable et Corbin, et puis ensuite rebelote Dominique contre Tozawa, ils ne sont pas trop fait chier sur le booking.
Ouais, surtout qu'on sait que c'est des trucs qui donneront pas grand chose derrière, quoi.
Bah, hormis du catch trop long, quoi, mais sinon, il faut occuper les 3 heures. Hein.
Faut occuper les 3 heures, c'est ça. C'est toujours le challenge de Monday Night Raw chaque semaine, 3 heures de catch. On a Bailey qui vient au ring aussi. Elle dit qu'elle en a marre de Becky Lynch, mais elle dit rien en fait. Elle est interrompue par Becky Lynch, pardon, qui arrive tout de suite par le public comme elle fait maintenant, hein, façon The Shield. Elle prend Bailey à partie, hein, en lui disant que de toute façon c'est elle le maillon faible de Damage Control, hein, parce que y a deux championnes, mais la troisième elle a rien gagné, quoi. Hein, elle appuie toujours où ça fait mal. Bailey se défend en disant que bon, elle a toujours eu le spotlight sur elle, Becky Lynch, puis que c'était toujours la même histoire, quoi. Mais le public est à fond derrière Becky Lynch. Bailey, elle dit que si elle gagne le match ce soir, si jamais quelqu'un gagne, peut-être qu'elles s'affronteront. Elle sert à rien un petit peu cette promo, mais ça permet de travailler un petit peu le personnage de Becky Lynch, jouer sur sa popularité, puis jouer sur le côté toujours méchant de Bailey. Mais il n'y a pas de configuration où risquer de s'affronter en fait Bailey et Lynch.
Bah si les gars étaient en finale. Problème.
Ouais, si toutes les deux étaient en finale, mais bon, on va voir que ce sera pas le cas.
Spoiler
alerte. Triple threat match, le premier de la soirée, Bailey affronte Rhea Ripley et Asuka. Donc du gros talent entre les rings. Là, on a trois des meilleures catcheuses du monde, hein, quand même. Parce que là, on va voir que Ripley, elle a ce qu'il faut. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais
c'est le spectacle. Surtout quand tu vas comparer ce match-là au lot triple threat, c'est assez violent l'écart.
Ouais. Au niveau de la technique, au niveau du selling, au niveau du charisme et au niveau du physique de Harry Play, on voit là que comparé à Bailey et Asuka, qui sont aussi le top du top de ce qui se fait dans la division féminine, elle a pas à rougir, hein, Harry Play. Donc bon, on le savait parce qu'elle a déjà été championne, etc. Mais c'est elle qui a pas mal fait le show, même si comme d'habitude, Asuka. Elle a beaucoup d'offense. Bailey, son talent n'est plus à démontrer. Donc là, on a vraiment trois qui nous donnent du beau spectacle. Ça se termine par un échange entre Asuka et Bailey. Alors que Ripley a été mis hors service à l'extérieur du ring. Elle a fait un gros jump à l'extérieur du ring pour essayer d'atteindre Bailey, mais Bailey a esquivé. Et elle s'est écrasée salement au sol, Ripley, sur le dos. Ça fait mal. Donc après, il ne reste plus que dans le ring à Sky Bailey qui se foutent sur la gueule jusqu'à ce que Bailey réussisse à placer son Rose Plant. Faut dire qu'Aska, elle avait pas mal bouffé, hein, pendant le match.
Oui, elles se sont souvent mis à deux contre elle.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, elle était un petit peu la face en péril, hein, face au duo de Hill. Mais enfin, c'est du gros, gros spectacle. Et c'est donc Bayley qui s'impose. Et après le match, Rhea Ripley pas contente, elle va faire un riptide sur, sur Asuka. Donc on a.
Sinon,
on
a bien mangé.
Qui, a décidé, ouais, qui mangera jusqu'au bout. Donc, bah voilà, hein, on a en un match. En plus, c'est pas mal parce qu'on a une rivalité donc, du coup, qui va se créer entre Ripley et Asuka. Parce que je pense qu'Asuka va quand même revenir à l'assaut de Rhea Ripley la semaine prochaine. Et Bayley qui se place donc en position de à nouveau potentiel challenger numéro 1 pour Bianca Belair. Voilà, bah, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de tout ça, mon bon papy.
Ouais, t'as plusieurs histoires dans l'histoire. T'as donc Bayley qui reste la heel numéro 1 de Raw, mais Rhea Ripley qui est présentée comme vraiment de plus en plus forte. D'ailleurs, quand le segment micro se termine entre Becky et Bayley, t'as un long moment où se regardent Becky et Rhea Ripley là.
Ouais.
À la dégonfle un peu là, personne ne bouge et même en se croisant, elle continue à se regarder. Donc c'était, il y a vraiment une intensité pour dire attention, on est conscient que Rhea Ripley c'est en train de devenir un des grands dangers côté féminin.
Ouais, bah là quand on la voit dans le ring, hein, au milieu du triple frite, on peut difficilement penser autrement. On voit bien qu'il y a quelque chose. Hein.
Yes, et en même temps, alors voilà, donc du coup est-ce qu'elle va aller vers Asuka? Moi, je pense que ça serait bien parce que je pense que ça lui ferait du bien de bosser un peu avec Asuka, même si elles ont un peu de passé commun. Puis en plus, là, elles se tournent autour depuis quelques temps, vu que c'était Rhea versus Asuka pour déterminer qui serait l'équipe avec l'avantage sur Wargame. Dans Wargame, c'est Asuka qui élimine Rhea avec son Mist. Donc, il y a un peu d'histoire entre elles. Alors après, je ne sais pas, Asuka a tellement été démembrée après le match que tu sais pas si elle va vraiment être encore dans les parages les semaines prochaines, on va suivre ça. Par contre, on voit que Bianca, c'est une bonne copine quand même, hein, parce que Asuka se fait démonter, et puis...
Exactement.
On avait besoin d'elle pendant Wargame, mais maintenant, plus rien à foutre, hein, démerde-toi.
À la John Cena, quoi.
Voilà, exactement.
Bravo Bianca Belair. Ouais, Bianca Belair, ça va être le gros problème de son règne, c'est qu'elle est invisible, quoi. Hein. C'est quand même pas top. Quand c'est le moment pour toi de briller et d'avoir la ceinture, je sais pas si elle a vraiment bien joué. Moi, je sais pas si je vais la placer au top du top dans les awards.
Autant l'an dernier, elle était au top. Autant cette année, c'est plus compliqué. C'est une année deux plus compliquée pour Bianca.
Ouais. Le résultat au Catch Up Awards, bientôt. On vous tient informés. Les awards que tout le monde nous envie. Puis Ascal fait le job. Toujours comme il faut, hein. Faut dire ce qui est.
Voilà, il y a grosse qualité de match des filles, hein. Ça, il y a
ouais, pas ouais. Alors, on connaît hein, mon désamour pour le catch féminin, mais ces affiches-là, ça, moi, j'en redemande, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Là, Asuka, Bayley, Rhea Ripley. Là, on est bien, les enfants. C'est ça qu'on veut. Et un autre truc qu'on veut, c'est Seth Rollins contre Bobby Lashley. Qui s'affronteront la semaine prochaine pour déterminer qui sera le number one contender pour le titre US. Donc on a une promo de Seth Rollins, hein, toujours très bien habillé, qui dit les conneries habituelles, hein, et que les gens aiment bien chanter pour lui, etc. etc. Et il y a Bobby qui débarque. Bobby Lashley arrive au ring, il dit à... Ah, Rollins, je veux bien entendre ce que tu as à dire, mais choisis bien tes mots, hein, parce que je suis pas d'humeur. Rollins souligne le fait que Lashley a un peu changé depuis sa défaite face à Brock Lesnar. Bon, il sait ce que c'est, Rollins, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette obsession? Est-ce que tu serais pas un petit peu jaloux de Lesnar? Est-ce que c'est pas parce que Lesnar a eu la carrière que t'as jamais eu, Lashley, que t'es comme ça? Alors, bah, évidemment, il a touché le nerf sensible, hein, Lashley attrape... ce bon vieux Rollins par le callback. Il me dit t'as te calmer maintenant. Bon bah après il y a des chants qui commencent encore pour Rollins. Rollins explique que Lashley ne pourra jamais battre Lesnar. Là-dessus Lashley s'énerve et c'est la bagarre. La bagarre qui est interrompue par les officiels qui débarquent au ring. Là Lashley à un moment donné dans le bois général il va tenter un spear mais Rollins l'esquive et c'est un des officiels qui va se prendre ce bon vieux Lashley en plein dans le bide. C'est officiel, c'est Petey Williams, hein, quand même. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Le catcheur canadien qui a popularisé le Canadian Destroyer, hein, longtemps à la TNA, dans la X Division. Je me suis toujours demandé qui c'était ce petit gars-là qui me disait quelque chose. Ben oui, c'est Petey Williams, forcément. Et ben ça aura des conséquences derrière, hein, parce que Adam Pearce, il va choper Lashley un petit peu plus tard dans les vestiaires en lui disant, écoute, là, t'as explosé un de mes officiels, ça se fait pas, je vais pas te condamner tout de suite, mais il faudrait pas que ça se reproduise.
T'es dans Lashley, le viseur, mec.
Ouais, t'es dans le viseur, Lashley lui dit, tu te fous de ma gueule ou quoi, c'est lui qui s'est mis sur ma route. Toi, fais plutôt attention à qui tu m'envoies quand j'arrive au ring. Voilà, l'ambiance s'échauffe dans les coulisses. Adam Pearce qui a toujours du mal à imposer son autorité. Et puis une grosse brawl entre Rollins et Lashley. C'est ce Rollins qui trouve toujours la corde sensible sur laquelle jouer. Voilà, est-ce qu'on est hypé pour le match la semaine prochaine?
Wow, après moi j'étais déjà hypé avant même que. Alors, c'est le segment, de toute façon, c'est à Lashley versus Rollins, ça se fait tout seul. C'est marrant la partition de Rollins qui est pas du tout face dans ce segment-là, qui est vraiment le en mode Rollins heel, mais qui néanmoins marche avec le public. Et puis ouais. Lashley face qui lui, du coup, bah c'est pas sûr. Enfin, c'est bizarre leur positionnement à ces catcheurs-là. Bon, néanmoins, ça marche bien. On a la confrontation donne envie. Avec un théorie en cible de mire en ligne de mire plutôt qui semble qui a besoin de ce type d'adversaire de haut niveau, donc ça s'annonce bien. Et puis tout le bordel dans le ring, bon, c'est du classique, hein, les brawls pour faire monter un peu la sauce, alors notamment avec Lesnar d'habitude, là c'est avec Lashley. Bah voilà, on parlait de Lesnar, Lashley fait une fois un peu Lesnar en tabassant tout le monde dont les officiels. À voir comment ça a tourné, c'est une excuse pour pouvoir sortir Lashley un moment en le suspendant. Ça serait un peu gros, mais bon, ça serait pas la première fois que ça se fait à la WWE. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ce qui me marque, c'est que Pierce, désormais, là, après avoir été écarté de l'antenne pendant des semaines, bah, c'est redevenu la figure d'autorité suprême, j'ai l'impression.
Ouais. Alors, ce serait bien qu'il lui file des costards un peu plus casse que ce qu'il porte habituellement. Mais lui tout seul, je trouve ça fonctionne mieux que quand on avait
Deville
qui traînait dans le coin. Voilà, moi ça me va. Si on continue avec Adam Pearce comme ça, qui vient de temps en temps jouer le mec de l'autorité, c'est plutôt efficace, je trouve. Hein. Là, ça rajoute un petit peu d'épaisseur à l'intrigue entre Rollins et Lashley. Après les positionnements heel et face, honnêtement, c'est on est dans un monde un peu bizarre, hein, entre.
Peut-être que ça n'existe plus, oui.
Ouais, peut-être que ça n'existe plus, peut-être qu'on est dans le gris, mais en tout cas, ce que c'est que les gens, ils veulent popper pour Rollins quoi qu'il arrive désormais. C'est fini l'époque où il était le babyface mal aimé. Les gens veulent chanter sa chanson. Voilà, il est au top du top, quoi, Rollins. Et Lashley, je pense que les gens, ils le veulent en destructeur. C'est toujours un petit peu délicat d'avoir un face destructeur comme ça. Donc là, je pense que de toute façon, les deux sont bien positionnés, même s'il n'y a pas une... C'est rare que ça arrive, mais il n'y a pas vraiment de position heel-face. Mais c'est vrai que ça tend à... Vraiment, là, à l'heure actuelle, à se compliquer. Sachant que quand tu essayes de faire un truc heel-face, ça dure 2 semaines, puis après, les gens se retournent contre le babyface. Et comment ça va dire le heal. Donc autant partir sur des trucs comme ça, à l'instar de ce qu'ils font avec la Bloodline, où finalement c'est la Bloodline qui est censée être heal qui est le plus acclamé. On verra d'ailleurs que dans la suite, c'est difficile de prédire les réactions du public, puisqu'on a Austin Theory qui en interview, toujours par Byron Saxton, avant qu'il soit interrompu par Mustafa Ali qui vient se foutre de sa gueule. Alors là, Mustafa Ali, normalement on est dans le babyface standard qui est impressionnant dans le ring, enfin spectaculaire dans le ring, etc. Mais les gens ne sont pas du tout derrière Ali, hein, de toute façon. Voilà, il explique
derrière Ali de toute façon, vu comment il est traité.
Ben voilà, c'est impossible d'être derrière un babyface qui qui de toute façon ne fait que perdre. Voilà, il dit qu'il abandonne jamais, il va lui montrer ce soir, je challenge pour un match, Austin Theory. Et on a un match derrière, hein, même que le titre US est en jeu. Mais évidemment, Mustafa Ali est défait par Austin Theory. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'emballe un petit peu, tellement j'ai l'habitude de voir Mustafa Ali se faire défoncer.
Ben c'est ça, tellement l'habitude de se faire la voir se faire
en fait, non, il s'est passé plein de trucs. Hein, le match a duré 8 minutes 01. Même que Ali, il a presque réussi à avoir l'avantage grâce en envoyant Theory à l'extérieur du ring. Mais bon, ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est Dolph Ziggler, out of nowhere, qui débarque et qui fout un super kick à Theory. Du coup, Ali se fait disqualifier. Et alors, du coup, ça se complique, là, parce que Ali vient voir Ziggler, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Je suis disqualifié à cause de toi. T'es con, pourquoi tu m'as fait ça? Dolph Ziggler, il dit, mais t'es qui? Je te connais pas. Dolph Ziggler, il en veut à Theory, hein, parce qu'on se souvient que Theory l'avait défoncé, il y a pas si longtemps. Donc ça s'engueule entre Ali et Ziggler, du coup. Et ben, entre temps, Theory, lui, il arrive à se remettre sur pied et il les attaque tous les deux. Il met son petit finisher sur Ziggler. Il est hué par la foule. Mais voilà que les choses se compliquent. Est-ce qu'on va partir donc sur une triple frite Ali, Ziggler, Theory, comme on a eu Rollins, Lashley et Theory. Ça paraît bien engagé. C'est un peu moins classieux. Mais en tout cas, Ziggler qui revient.
Ouais, c'est... Tu parles de triple frite qui nous emmènerait, mais Justin, n'oublie pas qu'on avait le match pour le challenger de Theory. Donc... Techniquement, ça devrait être Rollins ou Lashley versus Theory, quoi.
Ouais, mais est-ce que ça va
viennent foutre Ali et Ziggler là-dedans, putain.
Ça fait du monde autour de Citru S, hein. Mais est-ce que le Rollins Lashley va se terminer
Bah, peut-être.
Est-ce qu'il y aura pas quelqu'un qui va intervenir? Est-ce qu'il va pas y avoir des trucs qui vont se compliquer et que du coup on aurait la place pour nous placer un petit Ziggler Theory avec Mustafa Ali dans l'histoire. De toute façon, on est loin du Royal Rumble encore, hein, donc on a le temps de faire plein de choses.
Oui, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être qu'ils prennent leur temps parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à écrire avant d'arriver au Rumble. Bon, c'est en tout cas, c'était très bizarre l'intervention de Ziggler. Ouais, vraiment out of nowhere. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi? En plus, ils viennent nous rappeler la rivalité entre Ziggler et Theory. Bon, on s'en fout, quoi. Enfin, il n'y a pas de rivalité, quoi.
Ouais, c'est Ziggler qui essaie de s'imposer, de perdre sa place dans le truc, quoi.
Et c'est qu'il existe encore, quoi, mais entre Ziggler et Ali, là, c'est... On parlait du fait que Rollins, Lashley, ça permettait de monter haut le titre US, bah, Ziggler et Ali, ça fait l'inverse, hein, c'est tu rabats ça au fin fond de la low-card, là, donc, bon, bah, je sais pas trop ce qu'il fout Ziggler, lors du dernier truc d'analyse de SmackDown, on parlait du fait que Kofi c'était bien un ancien champion qu'il fallait rebooster, etc. En vue du Rumble. Mais et Ziggler, c'est un peu pareil finalement, c'est un ancien champion aussi. Mais sauf que Kofi, tu le vois toutes les semaines, quoi. Ziggler, il est pas là. Puis quand il arrive une fois tous les 10 ans, il se fait latter la gueule. Donc je sais pas trop, quoi. Là, je vois pas trop intérêt, moi, de ça, quoi. Ouais, faudrait qu'il soit un peu plus là, de manière un peu plus permanente, quoi, plutôt que d'aller et venir et puis de jamais avoir de trop de constance dans son booking. Je sais pas.
Ouais, c'est la différence entre un Ziggler et un Kofi. Parce que Ziggler, effectivement, et Kofi Kingston, c'est la même génération. Hein, et ils ont eu un traitement à peu près. Enfin, ils ont un palmarès à peu près comparable. Mais Kofi reste plus populaire que Ziggler. Ziggler, il a ses fans, hein. Surtout en France, mais enfin moi je constate depuis des années qu'à chaque fois qu'il arrive au ring, généralement le public il se fait assez silencieux, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de Kofi. Et comme en plus, comme tu le dis, on le voit que très rarement, et que sa nouvelle gimmick c'est un peu de débarquer à l'improviste comme ça alors qu'on l'attend plus ou qu'on l'attend pas.
C'est qu'on l'attendra jamais.
Ouais, c'est pas ce qui va lui redonner de ce qu'on appelle de l'overness auprès du public. Donc voilà, on sent qu'on va y avoir les matchs. Ça va sûrement être des matchs qui sont chouettes parce que c'est toujours très bon dans le ring, hein, Ziggler. Surtout face à des mecs comme Ali ou Theory qui ont des styles qui se marient bien avec son super selling là. Mais alors sur le long terme, je pense que c'est un truc qu'on oubliera assez rapidement. Hein. Donc voilà, bon, en tout cas, ça donne de l'effervescence au niveau du titre US. Et ben on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà, de toute façon, tout ça, c'est pour continuer à construire Theory, hein, qui est de plus en plus impressionnant dans le ring, qui a encore pris des muscles à niveau physique.
Pour moi, c'est vraiment Theory le gros plan, quoi. Alors, il nous reste un mois et demi avant le Rumble, donc. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour occuper les semaines, on va nous foutre du Ziggler, du Ali et tous les gars qui servent pas à grand chose mais qui vont servir juste à combler les trous, quoi. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. Ce qui m'embête en fait, c'est cette impression que tu ne construis les histoires qu'à travers tes pay-per-view, en fait, enfin, tes PLE. C'est-à-dire que tu pourrais très bien raconter une histoire qui se passe entre deux avec des événements à amener au prochain Raw, au prochain SmackDown, des trucs comme ça, quoi. Donc là, t'as vraiment l'impression, et ça sera encore plus fort en regardant SmackDown, que t'es vraiment en train d'étirer le truc, étirer, en se disant, il va pas se passer grand-chose jusqu'à qu'on arrive proche du Rumble. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Il pourra vraiment se lancer dans des histoires qui... des vraies, quoi. Pas juste, tiens, je te déterre lui, il va m'occuper deux semaines et on sera content, quoi.
Ouais, surtout que c'est deux mecs qu'il a battu assez récemment, Theory, au final. Hein. Il a déjà eu son gros match contre Ziggler, il a déjà battu. Pareil pour Ali, plusieurs fois, il lui a mis la pâtée, donc... Il n'y a pas vraiment de challenge pour Theory dans cette histoire. C'est un peu du réchauffé, c'est un peu les mêmes histoires habilement maquillées. Hein. Mais nous ne sommes pas dupes. Cathy Kelly dans les vestiaires interview Bianca Belair, hein, on se demandait où elle était passée. Eh ben, elle nous dit qu'elle est prête pour n'importe quel challenger.
C'est bien.
C'est bien, on est content pour elle. Et puis qu'est-ce qu'on a, Alexa Bliss qui est backstage, elle fait des échauffements avec Lily, la poupée. Il y a le petit logo de Bray Wyatt qui flash un petit peu derrière elle.
Ah bah je me demandais, j'ai pas fait attention, il est apparu le logo Bray Wyatt?
Ouais, pour un petit moment.
D'accord.
Ouais, il y a une rumeur qui tourne parce que Asuka a publié pas mal de photos d'anciens gimmicks qu'elle avait au Japon, qui étaient un peu dark là, où elle jouait un clown psychopathe, tendance SM, nazi. Donc les gens commencent à se penser, est-ce que ce serait pas Asuka qui va être débauchée par Bray Wyatt, parce qu'elle était un petit peu dans tous les segments où il y avait Alexa Bliss qui se mangeait le petit warning.
Le papillon.
Le papillon.
Bah, sauf là, du coup. Alexa était toute seule.
Donc là, ça a tendance à anéantir cette théorie.
Ouais, parce que moi, j'étais plutôt... J'aurais trouvé ça sympa qu'en fait, ils prennent le contre-pied en disant « T'as toujours Asuka et Alexa, puis tu vois le truc en pensant que c'est Alexa, et en fait, ce serait Asuka. » Sauf que là, si vraiment, enfin, comme tu dis, le truc est apparu, bon bah ça casse un peu le truc, quoi.
Ça casse un peu le truc. On verra bien. En tout cas, ce soir, Alexa Bliss, elle est dans la triple frite, opposée à Nikki Cross et à Becky Lynch, pour un match qui va durer 16 minutes 32, qui sera relativement assez propre quand même. Maintenant, c'est vrai qu'Alexa Bliss, Nikki Cross et Becky Lynch, c'est pas le même niveau. Que le triple threat précédent, c'est moins fluide.
C'est vraiment lent. Hein.
Ouais, mais elles ont pas bâclé le truc, quoi, quand même. Hein. Il y a Nikki Cross maintenant qui est de retour dans un gimmick de brawler ou brawleuse, je sais pas comment on peut le dire en français. Mais en tout cas, elle est pas là pour faire du beau catch. Hein. Elle fait du catch un peu de la brawl. Hein. Il n'y a pas d'autres mots pour le dire. Alexa Bliss, moi je suis quand même impressionné par ce qu'elle fait en ce moment. Je trouve que elle fait ce qu'elle peut pour être au niveau du reste de la division. Becky Lynch, elle fait ce qu'elle sait faire. Alors Becky Lynch, paraît qu'elle est encore blessée à l'épaule, hein, et qu'elle a encore du mal.
Ce ménage, façon de parler, hein.
Ouais.
Elle fait encore des sauts sur la troisième corde. L'autre jour, c'était du haut de la cage avec ses descentes de la cuisse. Là. Elle y va franco. Hein.
Ouais. Il y avait un passage, je crois, qu'un DDT sur le tablier du ring qui était un petit peu chelou. Mais bon, tout le monde fait du beau boulot.
C'est le Manhandle Slam, je crois, de Becky.
Ah oui,
sur, Nikki Cross. Nikki Cross, elle saute pas du tout.
Ouais, en fait, c'est ça.
Elle est restée scotchée au ring et du coup ça a rien fait du tout, quoi. Ça a fait vraiment dégueulasse.
Ouais, c'était pas beau. C'est pas beau à voir, ouais. Alors, je sais pas si c'est... Enfin, comme ça, c'est vrai qu'à l'image, on dirait que c'est Nicky Cross qui saute pas.
Bah, mais, ça ressemble à ça, ouais.
Ça ressemble à ça. Maintenant, allons savoir si c'est parce qu'il y a Becky Lynch qui a mal à l'épaule, qui lui a dit fait un peu gaffe et que du coup, elle a pas fait de move comme il fallait le faire.
Peut-être
on
aussi.
Sait pas. En niveau technique, on n'est pas encore assez calé, quoi. Mais en tout cas, c'était ça faisait bizarre à l'écran. Bon... Crossman Handle Slam là de Becky Lynch sur bah c'est de ça dont on parlait en fait hein parce que oui. Juste après il y a Dakota Kai et Io Sky qui viennent foutre la merde elles empêchent Becky Lynch de faire un tombé et même après elles prennent Becky Lynch elles lui font une power bomb à l'extérieur du ring
sur la table des commentateurs
sur la table des commentateurs
blessé ça va
ouais c'est vrai. Elle se ménage pas, hein, Becky Lynch. Alors Nikki Cross elle est toujours un peu KO et c'est là que Bliss en profite pour placer son Twisted Bliss pour le tombé final 1, 2, 3 et oui c'est bien, Alexa Bliss qui remporte le match. Elle va faire un face à face avec Bayley la semaine prochaine. Voilà, donc Bayley, Alexa Bliss et une triple frite pour terminer le show. Nikki Cross qui prend le tombé et Becky Lynch qui s'est fait éclater sur la table par les petits jeunes de Damage Control, les championnes tag team. Donc ce qui devrait relancer une rivalité entre Becky Lynch et Damage Control.
Ouais, ce qui va du coup justifier le fait que Becky intervienne la semaine prochaine entre Bayley et Alexa et fasse gagner Alexa, je pense. Parce que je vois pas Bayley en devenir challengeuse numéro 1.
C'est vrai que ça fait un bon moment qu'elle est challengeuse numéro 1, Bayley. À moins qu'il fasse gagner Bayley, qui après va battre, mais il n'y aura pas de match contre. Ouais. Elle va.
Wow. Moi, je vois vraiment Alexa,
gagner contre Belair et puis après faire au
Royal Rumble. C'est Bayley, trop loin, je pense.
C'est un peu long. Ouais.
Moi, je pense que c'est Alexa qui va tourner heel. C'est ce qui est dans les petits papiers depuis quelques temps, surtout avec son Arthur un petit peu zombie là.
Ouais,
je pense que c'est le moment de. C'est ça qui va faire le switch.
Ouais. Mais sinon, bon match. Et puis voilà, bah, encore une fois, on est en train de se poser des questions sur la suite. Donc, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on est intéressé.
Ouais, là pour le coup, il y a des histoires qui se lancent. Et on a la rivalité. Moi, je pense Bianca, Bayley, Becky qui semble certaine. Je pense que ça va aussi tourner sur Bianca et Alexa. Et puis du coup, bah, il nous restera éventuellement une Rhea versus Asuka. Donc ça, que tu utilises quasiment toutes les filles en fait dans ces histoires-là. T'as juste peut-être Nikki Cross qui est un petit peu en dehors du coup. Bah, je pense que si ça correspond à son personnage, c'est la moins haut gradée de toutes ces filles-là. Hein, donc c'est un peu normal qu'elle soit un poil en retrait. Sur le match, on l'a dit, moi j'ai trouvé que c'était moins sympa que le premier. J'aurais clairement inversé les deux matchs, même si scénaristiquement, je pense que c'était pas possible en fait.
Non, puis il faut mettre Lynch en main event.
En plus, ouais, t'as Lynch qui doit être en main event. Et puis je pense que si tu faisais intervenir Bayley contre Madge Lynch au début du show, bah là, t'aurais forcément obligé de faire intervenir Lynch dans le match de Blay. Enfin bref, ça tenait plus debout scénaristiquement. Et par contre, du coup, on s'est retrouvé avec un main event qui était un peu mou du genou par rapport à d'autres segments du show qui étaient plus sympas. Mais bon, je pense qu'on pouvait, c'était compliqué d'y échapper. Et on attend de voir la suite pour ces filles-là. À noter que je pense que t'as oublié un match avec Candice LeRae dans l'affaire là, parce qu'on voit qu'on arrive à la fin du show. Est-ce qu'on n'a pas eu un Candice LeRae versus je sais pas qui, peut-être Dakota Kai ou non, ou elle était juste venue dire coucou Candice LeRae?
Je crois qu'elle est juste venue dire coucou.
Ah bah j'ai de la merde alors.
Parce qu'après elle est partie avec de l'argent.
Donc elle a rien foutu en fait.
Alors, rien foutu, non, elle est juste venue ramener sa fraise. Personne n'en a rien à foutre.
Hein. Elle sert vraiment à rien cette fille. Hein.
Non, bah non, mais envoyez-la à SmackDown sinon.
Ou à NXT surtout.
Ou à NXT, voilà, elle serait très bien en championne d'NXT. Oh là là. On a du mal. Hein. On avait dit qu'on n'en voulait pas trop, on n'y croyait plus à ces gens de NXT qui montent dans le roster. J'ai tendance à dire qu'on avait raison. Et d'ailleurs, il y a un show NXT hein, ce week-end, un PLE.
Oui.
avec le premier match Survivor Challenge, je sais pas
Iron
trop quoi.
Bidule.
Iron Bidule, voilà. Une belle création de Shawn Michaels, qui doit être le pire booker de l'histoire, hein, Shawn Michaels. Je sais pas, j'ai regardé le début, j'ai regardé justement ce match-là. C'était pas bien, c'était les filles. C'était pas bon. Et après, il fallait coltiner encore un match féminin, donc j'ai arrêté. On vous en dira plus la prochaine fois. Mais bon, la relève est pas encore là, hein, pour le main roster. Je vous le dis. Il y a rien qui se dégage de NXT là pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis une fois que j'aurai vu le reste du show, mais
Ah, je te dis pas quand ça se finit alors.
Ouais, ok. Alors, dis-nous juste s'il y avait du grand spectacle. Est-ce que ça valait le coup
pas,
de regarder?
Pas
ah, t'as pas regardé, d'accord. Ah, ok.
Et non, a priori, chez les gars, ça a l'air d'être un peu plus spectaculaire de ce que j'ai vu. J'ai regardé les highlights. Il y a eu en tout cas plus de points marqués, donc j'imagine que ça veut dire que c'était un peu plus spectaculaire.
Après, alors c'est un truc comme Wargames un petit peu, il y a des trucs, ça dure trop longtemps, quoi, je dirais.
Sauf que tu peux faire les tombées dès le début, ce que j'ai compris.
C'est ça. Mais
c'est putain, vachement dégueulasse, en fait, parce que vu que tu comptes le nombre de tombées et que tu en as deux qui démarrent longtemps avant les autres, bah, c'est largement le temps de taper des tombées avant que le ring se remplisse, en fait. Voilà.
C'est ça. Ça n'a pas trop de sens. C'est pas très efficace. Une fois que tout le monde est rempli, tu vois qu'il reste encore 5 minutes de match. Alors, quand tu es dans les trucs féminines, tu dis pouah là là, c'est pas fini. Non, c'est pas ça fonctionne pas leur truc. Ça ressemble au Scramble Match, je crois que ça s'appelait comme ça, qu'ils avaient fait à l'ECW à une époque où en gros, t'as plein de monde et puis il faut faire le plus de tombées possible. Là, ils ont rajouté des cages avec des pénalités. Les gens rentrent au fur et à mesure. C'est vraiment du caca.
Hein. Le Scramble Match, c'était pas encore pire. C'était pas c'est celui qui faisait le dernier tombé, prenait la main ou un truc comme ça. Et puis.
Ah oui, c'était peut-être ça plutôt. Ouais, ouais, ouais.
Genre, t'étais champion. Tant que tu
te reprenais pas un
tombé, hop, t'étais champion. Puis tant que personne prenait le tombé, bah du coup tu restais champion. Et puis ça, tu pouvais le perdre à la dernière seconde en fait.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est encore différent. Mais bon, en tout cas, bon. Après, il y avait pas beaucoup de talent hein, au niveau féminin dans le truc. Je vous donne pas les noms parce que vous les connaissez pas de toute façon les gonzesses qu'il y a dedans. Puis j'arrive pas à retenir leurs noms. Ils ont des blazes en plus à NXT maintenant. Laisse tomber. Bref, c'est tombé bien bas NXT. Hein. Je suis désolé. Je crache un peu
mon fier, c'est triste.
Mais ouais, on est bien loin de la belle époque. Hein. Bon, top flop note, c'est parti.
De Raw, bon, on y va sur Raw. Alors,
sur la planche derrière, il faut faire SmackDown. Mais...
Ah là là, c'est pas vrai. Bon, alors, le top flop note de Raw. Bon, je vais le donner au. C'est simple, je vais le faire un double féminin. Donc, top, le premier triple frit, qui était de très haut niveau entre Rhea. Ouais, Bailey et Asuka et flop et le deuxième triple threat, voilà, comme ça je me fais pas chier entre Becky Alexa et Nikki qui étaient vraiment deux niveaux en dessous en termes de qualité puis qui lui malheureusement est en main event donc du coup j'ai eu le sentiment en finissant le show d'être un petit peu plan là parce que en fait le gros du show que ce soit ça ou alors le match avec la Bloodline, c'était la première heure en fait. Et après, t'as plus rien pendant 2 heures, hormis du poker et ce finish. Donc, moi, je finis le show malgré sa excellente qualité, je le finis un peu déçu. Et je vais mettre un 2,75 pour ce show.
Ouais. Je te rejoins à 2,75 à la note, effectivement. On est au-dessus de la moyenne, hein, clairement. Il y avait rien de honteux, comme d'habitude. Il y avait des quelques grands moments, notamment ce triple threat féminin avec Rhea Ripley, Asuka et Bailey, auquel je vais donner mon top également. Et le flop, je vais le donner. Je vais plus le donner à ce qu'on appelait justement NXT The Way, Gargano, Loomis et Candice LeRae. Qui rajoutent aucun intérêt à l'émission hormis perdre des minutes. Je préfère voir Tozawa se faire battre par
Dominique.
Par Dominique, voilà, ça c'est super, plutôt que d'avoir une interview de Gargano et compagnie. Ça fonctionne pas, voilà, Vince les aurait déjà enterrés depuis longtemps.
Bah, il l'avait fait, hein. Bah, c'est lui qui était déterré.
Voilà, bon, c'est bien d'essayer de donner de la lumière à tout le monde, mais que, voilà, si ça marche pas, ça marche pas, hein. Faut pas s'acharner. Eh ben, on enchaîne avec SmackDown. Hein,
allez, vas-y, bleu, je te suis.
Qui est, et puis, faut pas le louper parce que c'est un show historique. Hein, on n'aime pas trop souligner ce fait, mais là, il faut bien le dire que c'est le cas puisque on va fêter l'anniversaire de Kurt Angle chez lui à Pittsburgh. C'est au PPG Points Arena, Pittsburgh, Pennsylvanie. On aura aussi une défense de titre tag team par les Usos, ça faisait longtemps. Les Usos, donc, qui ouvrent le show, d'ailleurs, puisque c'est le match qui va ouvrir les hostilités. Donc, les Usos défendent leur titre contre Sheamus et le petit Butchou avec Rich Holland qui les accompagne, hein, c'est ce qu'on appelle les Brawling Brutes. Ça va se foutre sur la gueule gaiement, hein. 19 minutes 20 de match avec Denir Fall, en veux-tu, en voilà. Finalement, on va avoir un blind tag que Butch ne va pas voir et il va se faire piéger pour un Wendy. Alors que Zen, à l'extérieur du ring, va empêcher Sheamus de revenir dans le ring pour casser le tombé. Hein.
Ouais.
Il y aura de la bagarre aussi entre Solo Sikoa et Ridge Holland à l'extérieur du ring. Ridge Holland se défend bien, mais Sikoa va le prendre et lui faire son spinning solo par-dessus la barricade jusque dans le coin du où il y a tous les gens là, les gens qui sonnent la cloche, etc. Voilà, gros match pour ouvrir le show. Est-ce qu'on a kiffé? On a kiffé toujours la Bloodline en ouverture.
C'est rebelote d'euros en fait. Hein. C'est rebelote d'euros avec aussi peu de suspense. Le même déroulé finalement avec le face le moins fort des deux qui se prend le 1D et puis l'autre qui est empêché suite à une intervention de Zayn. C'est vraiment rebelote quoi. Donc le match en lui-même était bon, hein, y a pas à cracher dessus. Par contre, l'histoire se répète assez clairement là, la même semaine, le même scénario, c'est un peu violent quand même.
Ouais, on sent qu'on tire sur la corde, on a la formule qui fonctionne. On avait dit que de toute façon, il ferait mijoter hein, tout pendant les semaines jusqu'au Rumble. Là, on est clairement dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on a monté une belle affiche qui donne toutes ses promesses, mais c'est du réchauffé. On a déjà vu. Et y a pas
ça ne bougera pas tant que Roman ne reviendra pas. Et il a annoncé semaine prochaine.
Annoncé la semaine prochaine. Il y a une petite discussion dans les coulisses d'ailleurs entre les Usos et
entre Jay et Sammy, ouais.
Et Jay et Sammy. Voilà, il y a Jay qui dit à Sammy d'aller se couper les cheveux, de se faire tailler la barbe parce que il y a un petit truc de prévu pour lui la semaine prochaine. Hein.
Je pense que ça va enfin avancer là. Ça pouvait pas avancer tant que Roman n'était pas là. Et je sais pas si ça va avancer beaucoup, mais il y aura clairement. Je pense que pour le coup. Le segment Bloodline sera regardé la semaine prochaine.
Ouais. Ça va être inévitable. Qu'est-ce qu'on a? Kurt Angle et Gable Stevenson. Vous vous souvenez de Gable Stevenson? Tu t'en souviens, toi, le champion olympique?
Ouais. Bah oui.
Il a été signé il y a 2 ans. Ou un peu moins.
Déjà 2 ans?
Non, oh. J'exagère un peu.
Bon, il est en train de faire ses gammes au center, là.
Au PC, Performance Center. Bon, on ne le voit pas à NXT, hein, vous embêtez pas à aller regarder pour voir ce qu'il vaut. Il performe en cachette. Il y a Braun Strowman qui débarque, qui dit « Ah, comment que c'est, Kurt Angle, tu te souviens qu'on était potes et tout ?» Bienvenue à SmackDown.
Je me souviens de ça, hein, que Strowman et Angle étaient potes.
Je ne sais pas tout ça sort non plus. Mais
je crois que c'est juste que Strowman n'avait rien à faire ce soir, donc il fallait le montrer.
Ouais, parce que dans le temps, Braun Strowman, il vivait dans une grotte. Hein, donc... Et puis il voulait taper tout le monde. Là maintenant c'est devenu un mec sympa. Voilà. Bon, il dit qu'on pourrait peut-être avoir Gable Stevenson à SmackDown. Hein. Il pourrait même se prendre les mains de Strowman dans la gueule. On ne sait pas.
Il avait pas été drafté sur un des deux shows, Gable Stevenson. Maintenant
ouais,
que...
il est censé être à Monday Night Raw.
Ah oh, bah voilà.
Donc là, évidemment, Strowman lui propose de venir à SmackDown.
Ah, mais il a raison, de toute façon. Quitte à rien foutre.
Bah voilà, hein. Bien joué, ça. Être payé à rien foutre. C'est bien ce qu'a réussi Braun Strowman. Gabe Stevenson, il dit que dès qu'il sera prêt, il viendra voir Strowman, c'est promis. Tout ça ne mange pas de pain. Tiens, John Cena reviendra.
Décidément.
Le 30 décembre à SmackDown. Soyez au rendez-vous.
D'ailleurs, on va avoir des beaux shows de SmackDown. Là, parce que, attends, je regarde le calendrier. Donc, on a le 16, donc retour de Roman, et le 30, retour de Cena. Bon, il ne reste plus qu'un truc à mettre le 23, on sera bien.
Ouais, on est pas mal. LA Knight, en attendant.
Oula, oui.
En attendant les beaux jours. LA Knight vient au ring. On se souvient qu'il s'est fait défoncer mystérieusement dans les coulisses plusieurs fois. On suppose que c'est Bray Wyatt, mais on n'est pas sûr, on n'a pas de preuves. En tout cas, là, LA Knight débarque au ring, il veut des réponses, il explique, il nous rappelle que Wyatt a nié les accusations hein, d'attaque contre lui, il nous remonte un petit peu les vidéos des dernières semaines, et il fait notamment le zoom sur les jouets ou les masques, les hommes masqués qu'on voyait dans le décor.
Ok, on n'aurait pas compris.
Quand on n'aurait pas compris, voilà, il nous réexplique ce qu'il fallait suivre en fait hein, sur les séances précédentes, c'est-à-dire qu'il y a un mec mystérieux masqué qui apparaît dans l'ombre dans les pièces où se déplace LA Knight. Et il y a aussi une nouvelle vidéo qui apparaît de l'oncle Audi qui dit des trucs de taré.
Il dit
hein,
de la merde. Hein.
Ouais, il dit de la merde, voilà. S'il est bizarre, les gens mentent. Il va s'occuper d'LA Knight, etc. etc. Bon, LA Knight nous dit, ben voilà la preuve. Tiens, alors, vous avez tout compris. Et il va dans les vestiaires pour chercher Wyatt. Ben alors, il se balade un peu partout. Et on le retrouve encore backstage, où il entre dans un...
Avec un caméraman à un mètre de lui.
Voilà. Hein, il entre dans le locker room. Il trouve un t-shirt de Bray Wyatt. Il dit « Ah ah !»«
Ah ah !»« Je
suis plus malin, j'ai trouvé le t-shirt. » Et là, la lumière s'éteint. LA Knight sort son téléphone. Il met la lumière. Et là, bam, il y a un masque qui... Apparemment, c'est juste un masque, alors. Qui se tient derrière lui. Et parce qu'après, c'est la pub. Voilà, donc une course au trésor pour LA Knight.
Et attends, et juste, ça se finit un jour, ce segment, parce que je suis en train de... Pour que tu racontes, je me suis dit, merde, ça s'est fini comment cette affaire? Ça s'est fini juste avec la pub?
Voilà, ça se termine par une pub, un peu comme le segment des Street Profits de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu ne te souviens pas de la fin, c'est parce qu'il n'y a pas de fin, en fait.
C'est la pub. Oui, ok, ok.
Ouais, je t'avoue bon, que j'ai réfléchi aussi quand j'ai refait le line-up de l'émission. Il n'y a plus de référence à ça après, hein.
Non, bah.
Donc, voilà. La suite la semaine prochaine. C'est pas assez. Hein. Il nous en faut plus. Hein.
Là, là, c'est pareil. Là, c'est... Alors, au Brevet, en plus, il n'y a pas l'excuse d'être entre deux pay-per-view parce que c'était déjà comme ça avant. Mm. Donc, il patauge depuis Perpète. LA Knight, là, qui essaie de faire un petit peu office d'eux, mais LA Knight, il n'a pas le talent. Quoi. Enfin, c'est même pas qu'il n'a pas le talent. C'est qu'il n'a pas le.
Bah, il n'est pas assez imposé dans les...
C'est ça.
Hein, on ne sait pas qui c'est, LA Knight, encore.
Il n'a pas le star power, quoi.
Il n'a pas le star power, il n'a pas...
Un mec qu'on ne connaît pas qui fait des scènes tout seul...
C'est difficile, hein. Parce qu'en plus, il assure bien, quand même, au micro et tout.
Il essaie d'y aller, mais tout le monde s'en fout.
Mais tu dis, pourquoi le mec de la TNA, il est là Il ne devrait pas... Il fait pas partie de l'émission. Donc, c'est difficile. Oui, c'est trompé de chaîne, donc les gens sont sceptiques. Là on voit malheureusement Triple H qui a un peu trop confiance en certains de ses talents.
Faut pas oublier qu'ils laissent trop faire en fait. Hein.
Ouais, hein, faut pas oublier que les mecs, s'ils sont pas à Raw depuis un moment, on les connaît pas. Hein. Donc, et comme on l'a dit, on sentait qu'ils avaient travaillé aussi l'audio hein, pour qu'on ait l'impression qu'il y a un public qui soit réveillé et qui réagit. C'est pas forcément le cas, hein. C'est pas forcément ce que ça rend. À l'écran comme effet. Donc voilà, c'est encore trop peu pour Bray Wyatt pour nous intéresser vraiment. Dans les vestiaires, Megan Morant essaye d'interviewer Legado del Fantasma à propos des Viking Raiders, encore un truc passionnant. C'est sur le parking en fait que ça passe, et puis d'un seul coup on entend un hurlement. Qu'est-ce que c'est? C'est Shotzi qui est par terre. Elle s'est fait attaquer par Ronda Rousey et Shayna Baszler, mais on n'a pas vu l'action. Hein. On a juste vu Ronda Rousey et Shayna Baszler passer comme ça dans le décor et entendre crier Shotzi qui pleure. Elle a vraiment le bas cassé. Hein.
Décidément, ça casse les bras. Hein.
Ouais. Alors, c'était plutôt dans la journée. Là, il y a Megan Morant qui interview Baszler et Rousset. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, les autres, elles disent, vous n'avez pas de preuve que c'est nous, elle est peut-être juste tombée. Et là-dessus, il y a Liv Morgan et une certaine Tegan Nox qui arrive et qui challenge Baszler et Rousset pour un match. Et on aura un match plus tard dans l'émission qui est gagné par, je vais vous le dire...
Les Tegan Nox et machin.
Tegan Nox et là, cette Tegan Nox là et Liv Morgan. Ça a duré 4 minutes 7. On nous met aussi un petit package vidéo pour nous rappeler la carrière de Tegan Nox. Alors, je disais en rigolant que sa grande réussite c'était de s'être cassé deux fois les genoux. Et c'est ce qu'on nous rappelle dans la vidéo.
C'était ça.
C'était ça.
Ce qu'on montre, en toute façon.
Voilà.
Regardez, c'est la fille qui se casse les genoux. Ah, super.
Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ah, c'est, je dois répondre en plus.
Ouais, moi j'ai rien à dire, c'est complètement nul. Ah, oui, il y a Raquel Rodriguez aussi qui est venu à un moment donné.
Il y a Raquel Rodriguez, non, mais c'est la totale nullité en fait entre. Liv Morgan et Tegan Nox qui se mettent en équipe. Là, ça y est, Tegan Nox est revenue depuis une semaine et maintenant elles sont meilleures copines de la vie et elles sont en équipe et tout. Ça va être super. D'ailleurs, à l'issue de ce match, cette victoire, elle va être challengeuse numéro 1 pour les ceintures hein, directement. Et hop,
ouais.
Ça Allez. Trace. Hein. On y va. Hein. Ronda et Baszler, qui est donc la championne hein, qui se fout en équipe, qui fait du cash par équipe. Hein, ça me rappelle vraiment Nakamura, Ronda la blondeuse. Qui font pas grand-chose et puis qui perd en plus suite à l'intervention de Raquel Rodriguez et son bras cassé. Donc c'est-à-dire que c'est pathétique quoi.
Ouais, surtout si le payoff ça doit être Ronda Rousey contre Raquel Rodriguez.
Bah ouais, ce sera ça hein.
Merci hein.
Merci. Alors la bonne nouvelle c'est que Tegan Nox a viré son jean troué dégueulasse.
Ouais.
Elle est devenue une catcheuse. Bon, c'est un progrès, on va dire que je le vois là le progrès.
Voilà, c'est déjà ça. Maintenant, le match n'était pas bon. C'est nul, quoi. C'était nul. On s'en sort pas hein, de la division féminine de SmackDown.
Ah bah, elle est condamnée, moi, je pense. Hein.
Ouais, c'est condamné. Il va falloir piquer l'animal. Hein. Tant pis. Les Viking Raiders affrontent les Legado del Fantasma. C'est pour ce soir. C'est un match qui va durer. Ouais, c'est alors les Viking Raiders sont accompagnés de Valhalla hein, maintenant, c'est comme ça qu'on appelle je sais plus comment elle s'appelait avant.
Sarah Logan,
voilà. Et les Gado del Fantasma, ils sont accompagnés de Santos Escobar et Zelina Vega hein. C'est Cruz del Toro et Joaquim Wilde hein, les Gado del Fantasma. 1 minute 53 de match puisque c'est interrompu par les étrons sont de retour. Ils attaquent tout le monde, ils font le ménage dans le ring et après ils font la fête au milieu du ring. Je crois que Bifab elle a attaqué Zelina Vega, je crois, ou non, elle a mis une petite Valhalla, ouais.
Ah non, elle a balancé Valhalla sur Zelina Vega.
Ah ouais, c'est ça, c'était bien fait ça. Zelina Vega elle fait qu'est-ce qui se passe, bien exécuté. C'est Zelina Vega la meilleure dans tout ça, même s'ils sont bons aussi les Legado del Fantasma, je le rappelle, mais il n'y a pas une match hein, finalement. Voilà. Donc,
on annonce un triple threat la semaine prochaine entre Intro, Viking Raiders et Legado del Fantasma.
Hein. Faut pas le rater.
Restez là, ne zappez pas.
Ouais. Le pompon, je crois, c'est Top Dollar qui n'arrive pas à monter dans le ring. Il prend une chaise, il veut monter dans le ring, mais il arrive pas.
Il fait tomber sa chaise comme un con, du coup, il lui refait une autre chaise.
C'est ridicule. Voilà. Ça, on est obligé de faire avec. Hein. SmackDown aussi, c'est la division tag team de SmackDown.
Qui se met au niveau de la division féminine.
Ouais.
Je sens qu'il est sympa de leur part.
Ouais, ils veulent pas faire d'ombrage à la division féminine, c'est gentil. Mais là, l'intérêt, c'est que ça n'a pas duré longtemps.
On n'a pas trop souffert.
On n'a pas trop souffert, mais quand même, merci bien, mais non merci. Hein. Alors, dans les vestiaires, Kurt Angle, il fait la fête avec tout le monde. Tous ses amis sont là. Et il y a notamment Alpha Academy qui essaye de rentrer. mais ils sont refoulés par le vigile. Et par contre, les Street Profits, eux, ils ont le droit de rentrer. Vous aurez le
racisme. Le
racisme, ouais, c'est vrai. C'est comme ça maintenant. Hein. Les Blancs, ils ne peuvent plus rentrer dans les boîtes de nuit.
Il y a le fils de Kurt Angle qui était là, c'est mignon.
Le fils de
Jason
Kurt
Jordan.
Jason Jordan, ah oui, ça c'était beau, la réconciliation entre le papa et le fils prodigue. Hein, des nouvelles de Jason Jordan, il ne catchera plus, mais il est producteur à la WWE. C'est lui qui vous produit pas mal de ces merveilleuses séquences de SmackDown hein, qu'on a depuis quelques mois.
Virez-le.
En tout cas, c'est la fête dans les vestiaires. Et donc, bon, comme il y a l'injustice envers les Blancs, effectivement, on a nos défenseurs, les nazis d'Imperium. Et ce soir, on a une signature de contrat pour le match Ricochet Gunther.
Gunther.
Que Gunther, champion intercontinental, va devoir défendre son titre face à Ricochet qui a gagné la World Cup hein, la semaine dernière.
C'est rigolo d'ailleurs, je te coupe tout de suite parce que avant que j'oublie. Ricochet, donc le mytho là, qui fait croire qu'il n'a jamais eu sa revanche. Et dans l'autre sens, t'as Gunther qui rappelle qu'il l'a déjà battu deux fois. Ça, ouais. Je trouve ça marrant quoi.
La vérité sort de la bouche des nazis.
Des nazis, voilà.
Exactement. Bon, Ricochet, il y a une table hein, comme d'habitude, hein, la fameuse table pleine de cocaïne là, qu'ils ont toujours pour faire les signatures. Ricochet, avant que ça commence, il est rejoint par Xavier Woods et Kofi Kingston, le New Day, qui viennent faire la retape pour NXT Deadline, le pay-per-view de, enfin le pay-le de NXT, hein, où ils affronteront les champions de NXT, les Pretty Deadly. Donc, Adam Pearce il dit bon, bah faites gaffe, hein, voudrait pas que ça dégénère en brawl. Kofi Kingston il dit non mais t'as déjà regardé du catch ou quoi, c'est comment que ça se passe généralement. Il y a Gunther qui prend la parole, il dit vous êtes une honte pour le catch hein, tous autant que vous êtes, nous on est des catcheurs, on n'est pas des performeurs comme on dit. Alors Ricochet il rigole, il dit ça veut dire que t'arrives pas à performer, donc là il y a une blague un petit peu sur l'impuissance supposée de Gunther. Voilà, c'est drôle. Très mauvais acting de Ricochet, hein, comme d'habitude. Ricochet qui promet de gagner contre Gunther. Et là-dessus, c'est la bagarre. Mais ils ont quand même signé entre-temps. Alors là, j'ai bien aimé le move d'Adam Pearce qui prend le contrat et qui dit allez, hop, c'est bon, ramenez-nous des. Virez les fournitures, ramenez-nous un arbitre, là, et puis ça va être la bagarre de toute façon. Et donc, on a un 3 contre 3. Ricochet, New Day contre Imperium. 18 minutes 47 de match. On sent qu'ils font plaisir hein, à catcher les uns avec les autres là. Et à la fin du match, on va tenter une power bomb sur Kingston, mais il s'échappe. Ricochet va se débarrasser de Kaiser avec un top rope American Rana. Kingston va attraper Kaiser avec un Trouble in Paradise, et Ricochet va enchaîner avec le 630 Splash pour la victoire. C'était un gros bordel, hein, évidemment. Mais c'était très spectaculaire. Voilà, victoire des gentils. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on pense de tout ça, mon bon, tout ça pour nous hyper pour à la fois NXT ce week-end, et pour le match de championnat intercontinental entre Gunther et Ricochet.
Ouais, c'est ça. T'as finalement les deux challengers qui, enfin les deux, les trois challengers qui se retrouvent avec la victoire. Donc Ricochet pour le titre intercontinental et le New Day pour le titre tag team de NXT. Donc ils sont tous les deux challengers et puis qui s'en sortent avec une victoire. Donc je pense que c'était le bon move à faire. Même si voir des nazis perdre, c'est jamais trop réaliste, mais voilà, hein, on est dans le monde du spectacle, de la WWE, voilà. Donc forcément, ils montent des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie.
Il faut suspendre l'incrédulité.
Exactement, il faut vraiment le faire très très haut là, dans ces cas-là, mais bon, on l'accepte et on fait avec. Mais bon, c'est comme ça, c'était un joli match. Je plaisante, mais c'était plutôt pas mal. Ils ont essayé de jouer pas mal avec les codes de la signature de contrat. Avec un Woods qui est toujours aussi bon au micro et Kofi qui était bien aussi, c'est vrai que Ricochet est en dessous, Mais bon, justement, les deux autres étaient là pour le booster un petit peu.
Ouais.
Pierre, ça a bien fait le clown, comme d'hab, hein, quand il réagit bien avec les New Day. Enfin, ça marchait plutôt bien. Donc, l'ensemble du segment était sympa. Je pense que c'était un des segments les plus divertissants du show, finalement. Quand j'y repense maintenant,
ouais.
C'était plutôt bien. Et t'as eu un moment aussi, t'as, je sais plus qui passe par-dessus la table, là, balancé par les nazis. Et il sera deux doigts de shooter Cole qui continue à commenter en temps qui se fait dégommer. C'est assez drôle aussi, quoi. Donc, bon, bah, c'était un bon moment dans ce show.
Ouais, honnêtement, du bon catch, un bon segment de signature des contrats. On en a vu 5000 hein, depuis 5 ans, mais ça a été fait plutôt correctement. Non, ils sont bien posés, Imperium, ils sont bien posés. Ça fonctionne bien contre les New Day. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas le titre tag team en jeu. Ça donnerait un peu plus de saveur à tout ça. Mais voilà, on est même presque hypé pour le Ricochet Gunther qui va arriver.
Presque.
Donc c'est du bon boulot. Et puis Ricochet est catché bien aussi. Donc on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce soir, on a Karrion Kross qui vient rendre visite à Rey Mysterio, qui est donc chez le kiné. Hein, Rey Mysterio en train de travailler sa jambe qui a été cassée. Hein, il s'est fait passer à tabac aussi par son fils récemment, donc ça va pas fort. Karrion Kross, il vient avec Scarlett. Il dit c'est bon, calme-toi, c'est pas la bagarre. Il vient juste lui demander qu'est-ce qu'il fout le vendredi soir à venir jusqu'à SmackDown juste pour voir le kiné. Vous pouvez pas faire ça à la maison. Il y aura pas de réponse là-dessus, mais Karrion Kross quand même nous fait toute une petite histoire sur les chevaux, hein, qui parce que on apprend que Scarlett elle a vécu en Roumanie, elle est née en Roumanie. Et c'était là-bas, c'était pas facile. Ils avaient un cheval de course, mais le cheval, elle a aucun sens cette histoire maintenant que j'y pense. ils avaient un cheval de course.
Genre de merde.
Alors au bout d'un moment le cheval il pouvait plus faire la course, alors comme ils sont en même temps entraîneur de cheval de course et paysan, ils ont transformé le cheval en cheval de trait, et après le cheval il pouvait même plus faire cheval de trait parce que donc forcément un cheval de course que tu mets en cheval de trait ça donne pas des très bons résultats, donc ils ont bien failli dû l'achever hein, au bout d'un moment parce qu'il faut bien achever les chevaux. Mysterio qui avait quand même appelé la sécurité hein.
Alors c'est le médecin qui appelle la sécurité,
ouais,
c'est pas Mysterio.
Ouais. Mais je crois que c'est Mysterio qui dit au médecin d'appeler la sécurité.
Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression que Mysterio parlait pas du quasiment pas du segment.
Ouais. Donc la sécurité débarque, Kross dit non, il y a pas de problème. Mais il dit à Mysterio de fais gaffe au temps qui passe quand même. Tic toc tic toc. Et il s'en va. Voilà, il est venu un petit peu mettre la pression à Rey Mysterio. Hein. On sait que maintenant Kross, il a dans le viseur Rey Mysterio, il a tiré son nom dans les cartes de tarot.
Il a besoin de lui pour exister, hein, donc...
Voilà, c'est ça.
S'il te plaît, guéris-toi.
Viens me faire un match avec moi. Tu dis, merde,
allez, vas-y, fais pas le con.
Fais pas le bâtard. Voilà. Bon, en tout cas, bel acting de Karrion Kross, quand même. On peut au moins lui donner ça.
Oui, l'histoire en elle-même, je t'admire d'avoir retenu l'histoire du cheval roumain ou hongrois de...
Ouais.
De Scarlett.
Ouais, j'ai dit Roumanie, mais je suis pas sûr à 100%. Mais...
De l'Europe de l'Est.
Elle, ouais. Elle a vécu dans l'Europe de l'Est, quoi. Donc, en plus, il l'a commandé sur Internet, sa femme, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Alors, ça explique certaines choses, quand même. Hein. Mais bon. Bah voilà, donc, bon, Karrion le mytho continue sa vie. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus.
Voilà. Et c'est bien dommage parce que je sais pas si on aura grand-chose à dire sur le main event. Il y a quand même Lacey Evans qui s'entraîne toujours chez les Marines. Hein.
Ah ouais, oula.
Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Mais sinon, le main event, c'est l'anniversaire de Kurt Angle qui est interrompu. Il y a un gros gâteau. Hein. C'est ça le point intéressant de l'histoire. Il y a un gros gâteau. Il est interrompu par l'Alpha Academy qui ne sont pas contents de ne pas avoir été invités. Et puis ils viennent même mettre la pression à Kurt Angle. Il dit de toute façon, ce qui va se passer ce soir, c'est que c'est Otis qui va manger le gâteau. Toi, tu peux retourner dans les vestiaires. Hein, t'es washed up, t'es jaloux de moi, etc. etc. Donc bizarrement, Kurt Angle bat en retraite. Hein, il retourne sous le titre en tronc. Mais il dit si Otis doit manger le gâteau, il va lui falloir beaucoup de lait. Et là, on a Gable Stevenson qui débarque avec un camion de lait à l'ancienne. Hein. vous souvenez-vous de l'attitude Era, tout ça. Là-dessus, on jette du lait sur Otis et Chad Gable, des bouteilles de lait, et puis après, on les asperge avec du lait. Et voilà, et on a fêté l'anniversaire de Kurt Angle. On est content.
Craint le pire au début du segment. Parce qu'au début du segment, pas le tout début, parce que le tout début, ça marche plutôt bien avec donc Kurt Angle qui s'en va, un peu penaud, puis les autres qui profitent du gâteau. Et t'as plus qui, en ce moment, est à mort dans le Eat the Cake, là. Donc, ils ont encouragé Otis à manger le gâteau, ce qu'il a fait. Et puis là, d'un coup, t'as le camion qui arrive. Qui n'arrive pas trop à manœuvrer là, qui
a deux doigts de caler, il y avait des petits soucis.
Des petits soucis pour galer, donc il n'arrive pas à s'approcher du ring. Il n'est pas proche du ring, du coup, il commence à sortir des bouteilles de lait qu'il lance sur les autres gars, mais bon, ça fait un peu cheap quoi, les bouteilles de lait, parce que heureusement que Gable et Otis ont été énormes dans ce segment-là, parce que franchement, ils ont tout fait pour sauver le truc en se jetant sous les bouteilles de lait pour qu'elles explosent bien dans leur gueule. Et c'était visuellement assez sympa finalement, parce que du coup ils les prenaient en pleine face. Et puis après ils se sont jetés sur le jet de lait, et je me dis heureusement que ces gars là ils font le taf pour que ça marche, parce que franchement sur le papier c'était vraiment dégueulasse comme segment quoi, avec un Kurt Angle qui est triste à voir comme pas possible. Il n'arrive plus à marcher, il a le visage complètement maigre et tout, il a même plus de... Il sourit à peine, enfin, tu sais, t'as l'impression qu'il est au bout de sa vie, le gars.
Ouais, il fait peine à voir quand même.
Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'était assez tristoun, quoi, comme segment. Puis alors, les autres ont fait les bouffons pour sauver un peu le truc, tant mieux. Et c'est là où vraiment je me suis dit, bon, le public, il est archi truqué, là, au niveau du son, parce que là, par contre, c'était la victoire de la finale de la Coupe du Monde, quoi.
C'était la pop de l'année.
La pop de l'année, alors que tu voyais les gens publics qui bougeaient à peine. T'avais 2-3 gars avec un smartphone et qui applaudissaient, mais sinon, tout le monde s'en foutait. Enfin, pas tout le monde s'en foutait, mais ce qu'ils étaient quand même contents, je pense, de voir la Alpha Academy faire les clowns dans le ring, et pas au point de hurler comme on l'avait droit dans les sons, quoi. Mais de toute façon, on l'aura bien eu comme ça, puisqu'il y a eu ce segment-là où ça hurlait. L'arrivée de Tegan Nox, un peu plus tôt, c'est pareil, c'était la folie dans la salle, alors que tout le monde s'en foutait. Et par contre, les Usos se sont fait huer comme jamais, alors que manifestement, c'est pas trop vraiment l'attitude du public à leur égard. Donc, l'ingénieur du son était décidément très inspiré ce soir à Pittsburgh.
Ouais. C'est la nouvelle technique pour mettre de l'ambiance. Moi j'ai vraiment eu peur que Angle soit scotché au camion quand il a appuyé sur le G pour faire sortir le lait, hein, parce qu'il avait vraiment du mal à tirer le tuyau. Hein.
Ouais.
Mais bon, voilà, bon, bah, c'est un hommage au classique de la WWE. Ils aiment bien faire ça, apparemment, à SmackDown ces derniers temps. On avait eu un peu la même connerie avec quand ils avaient ramené DX, là. Un soir. Voilà. Ils ont dû avoir un Dark Main Event, je pense.
Bah, j'espère, hein, public. Sinon c'est triste pour le public. Hein.
Sinon ça fait cher la place quand même. Hein. Voilà. Bon ben il va falloir donner un top, un flop et une note. Hein, c'est le mot de la fin.
Il va falloir le top. Je ne sais pas où le chercher. Je vais le donner au Nazi versus New Day Ricochet, était finalement plutôt plaisant, qui m'a un peu réveillé dans ce SmackDown où je commençais sincèrement à piquer du nez, donc au niveau des flops, je ne sais pas où chercher là, parce que c'était vraiment mou du genou, quoi. C'était mou du genou, puis en plus ça sentait le faux avec le son trafiqué, quoi. Donc ça donne pas envie. Si je devais en sortir un de flop, est-ce que je vais le donner au Nana comme d'hab? Non, je vais le donner au Legado, tout le bordel, là, le triple frit de local, là, je ne peux pas, là.
C'est
nul, hein, c'est vraiment mauvais, quoi. Donc voilà pour eux. Et ma note, j'ai pas aimé ce SmackDown. Clairement, je me suis fait chier les trois quarts du temps. Il y a deux, trois gars qui comme le New Day ou l'Alpha Academy, qui essaient de sauver un peu le bazar, mais sinon, c'est... Là, on a vraiment senti le creux de la vague. Il manquait des stars, et puis voilà, quoi. Même la Bloodline, quand tu sens qu'ils errent sans but le temps que Roman revienne. Bon, bref, je me suis bien ennuyé, donc je donnais simplement 2 pour ce show.
Effectivement, c'était loin d'être le meilleur SmackDown de l'année. Moi, je vais donner mon top à Solo Sikoa, qui fait bonne impression à l'extérieur du ring.
Il aura fait une belle semaine.
Il aura fait une belle semaine, ouais. Voilà, moi, je suis impressionné par ce petit Solo. Le flop, je vais le donner à Top Dollar, qui l'a bien mérité en...
Gros sac, là.
En botchant juste une montée dans le ring. Voilà, on veut des catcheurs qui aient l'air de catcheurs, hein, quand même. Hein, le livreur de chez Picard, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir à la télévision. Je vais même mettre 1,75, je pense, en note. C'était vraiment pas un très bon SmackDown, hein, on va pas se mentir. Ce qui fonctionne, fonctionne, hein, mais alors ce qui fonctionne pas, c'était vraiment la purge. Hein. Et puis ouais. Terminer sur l'anniversaire de Kurt Angle, c'est léger quand même.
Bah surtout dans l'état où il est, quoi, le pauvre.
Ouais, c'est vrai.
Laissez-le tranquille.
Laissez le Kurt Angle tranquille. Enfin, on est content pour lui quand même, il a dû se prendre un petit chèque. Hein. Ouais, je sais pas s'il est encore sous contrat. C'est bien. Hein, allez, ça va, c'est bien. Bon, bah voilà, bah on a fait le tour de ce super catch-up. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Pensez à vous abonner, hein, si vous nous découvrez sur YouTube. Je vous rappelle qu'on est là toutes les semaines pour vous débriefer le meilleur de la WWE et le pire également. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc pour les news, les ratings, les être averti dès que ça sort. Une petite émission. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. La petite cloche sur YouTube si c'est pas déjà fait. Tout est gratos. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Ben, merci à toi, Ringside, pour cette invitation à un super catch-up. C'était une super émission. Merci à toi.
Merci. Et n'oubliez pas qu'on a en ligne aussi notre comptoir du catch sur The Shield. Hein, on revient sur 10 ans de The Shield. Voilà, c'est un peu plus historique que ce qu'on vous a conté ce soir. Pour le reste, on se retrouve très bientôt. Ciao les amis, à bientôt, bye bye.
Salut à tous.
Il demande s'il était bon le gâteau.
Des gâteaux.